RFI, il est 6h30 en temps universel, 8h30 à Paris. Le journal présenté par Édouard Dupénoit. Bonjour Édouard.
Bonjour François, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la journée de lutte contre le paludisme.
Oui, parce que c'est en Afrique que cette malaria fauche la quasi-totalité de ses victimes. Mais pour combien de temps encore les vaccins enfin efficaces se déploient à grande échelle? Human Rights Watch dénonce de très lourdes exactions commises par l'armée au Burkina Faso, plus de 200 civils froidement abattus. Des candidatures en pagaille en Mauritanie, trois figures de premier ordre se sont déclarées en quelques jours.
Et puis le dossier de ce journal, comment les professionnels de l'info en Centrafrique s'organisent contre la prolifération des infox.
Tout est une question de moyens et de bonne organisation parce que les fake news ne sont pas une fatalité.
Pour la première fois depuis 30 ans, la journée de lutte contre le paludisme avance armée de deux vaccins.
Redonner d'abord la malaria en chiffres, c'est rappeler qu'elle a tué plus de 600 000 personnes dans le monde en 2022, 95% se trouvant en Afrique. Mais c'est dire aussi que la science pourrait prendre le dessus puisqu'il existe deux vaccins homologués par l'OMS, efficaces pour protéger les jeunes enfants, le public le plus à risque. Une vingtaine de pays d'Afrique ont ou vont lancer des campagnes à grande échelle après que trois pays, Kenya, Malawi et Ghana, ont testé l'un de ces vaccins grandeur nature depuis 5 ans. La mortalité infantile y a plongé de 13%. Illustration de ces campagnes massives de proximité avec Victor Cariou.
Une petite piqûre sur le bras et ça y est, Precious, fillette de 10 mois à peine, a reçu sa troisième dose du RTSS, l'un des deux vaccins contre le paludisme. Un soulagement pour sa mère, Victoria.
Les enfants, quand ils ont le paludisme, ça peut être très dangereux. Ils ne peuvent pas exprimer leur douleur. Donc j'ai beaucoup aimé quand ils ont commencé la vaccination pour nos enfants.
Elles sont une trentaine de mères et autant de bébés à s'être regroupées ce matin sous le préau d'un des centres de santé de Boudoubouram, ville à l'ouest de la capitale, Accra. Pour les accueillir, Félicity Otou, responsable du contrôle des maladies pour le système de santé ghanéen.
Les gens ici ont bien accueilli le vaccin, surtout parce que nous avons pu leur donner de bonnes informations sur les bénéfices sanitaires du vaccin avant que nous commencions vraiment à le faire.
Ces séances gratuites sont aussi l'occasion de faire un suivi médical, de prescrire des traitements en cas de besoin, de répondre aux questions des parents, autant d'aspects primordiaux dans la lutte contre le paludisme. Félicity Otou.
La lutte contre le paludisme, ce n'est pas juste le vaccin. Par exemple, il faut que les parents s'assurent que leur enfant soit correctement nourri. Parce que si l'enfant reçoit le vaccin sans avoir les nutriments nécessaires, comment peut-il développer les anticorps?
Au total, dans les zones pilotes du programme de vaccination au Ghana, plus de 80% des nourrissons âgés de 6 mois à 1 an ont pu recevoir une première dose de vaccin. Victor Cariou, de retour de Boudoubouram, RFI.
Est-ce qu'on peut éradiquer ce paludisme pour de bons? Quels gestes et quelles pratiques appliquer au quotidien? Au quotidien, Priorité Santé y revient dans 2 heures avec Caroline Paré et ses invités. Human Rights Watch publie une très lourde enquête à charge contre l'armée burkinabé. Sur le fondement de nombreux témoignages, l'ONG pointe les massacres commis par les soldats sur des civils dans deux villages du district de Thiou, province du Yatenga dans le nord du pays. Plus de 220 civils massacrés, Sidi Yansané, dans ce qui semble être une opération de représailles.
Les massacres dans les villages de Nodin et Soro le 25 février dernier avaient déjà été documentés par RFI qui s'appuyait alors sur un bilan provisoire de 170 morts. Aujourd'hui, le rapport de Human Rights Watch en dénombre jusqu'à 223, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants. L'ONG s'est entretenue avec une quinzaine de personnes témoins des tueries. Elle raconte qu'un convoi de plus de 100 militaires est arrivé en début de matinée à Nodin. Ils ont regroupé les villageois à l'extérieur avant d'ouvrir le feu. Le scénario va se répéter dans le village voisin de Soro. Selon les rescapés, les victimes ont été abattues suite à une attaque terroriste contre des FDS et leurs supplétifs VDP près de Waïgouya, la capitale provinciale. En représailles, les militaires ont exécuté les villageois, les accusant d'être des complices des djihadistes. Human Rights Watch compte ces massacres parmi, je cite, « les pires exactions commises par l'armée burkinabé depuis 2015 et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité ».
Yansané.
À 2 mois de l'élection présidentielle en Mauritanie, plusieurs personnalités politiques de premier plan se déclarent les unes après les autres.
Le chef de l'État lui-même, Mohamed Oulcheikh Razouani, la présidence diffuse aux médias une lettre ouverte de sa part où il confirme bien qu'il tentera un second mandat à la fin juin. Il retrouvera sur sa route un opposant de longue date, Biram Dahabed, arrivé deuxième en 2019. Ce militant figure de la lutte contre l'esclavage. Question plus incertaine, y aura-t-il aussi des bulletins de vote au nom de Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président entre 2009 et 2019? 2019, condamné au mois de décembre à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Ses avocats avaient interjeté appel, alors l'ex-chef d'État va-t-il pouvoir se présenter en conséquence? La question divise profondément les juristes, Léa Breuil.
Les responsables du parti en cours de création de l'ancien président ont déclaré samedi que Mohamed Ould Abdelaziz se présente sans hésitation au scrutin. Mohamed Ould Tibril, responsable du parti Front pour le Changement, dénonce une condamnation politique de l'ancien président. Selon lui, sa candidature est nécessaire pour, je cite, sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve.
90% des citoyens réclament le retour du président Mohamed Ould Abdelaziz parce qu'ils ont constaté que la situation économique s'est dégradée, la situation sécuritaire s'est dégradée. Il est en prison parce qu'il n'a pas voulu céder. Les gens voulaient qu'il quitte la scène politique. Mais lui, il a dit toujours qu'il va rester pour défendre le peuple mauritanien.
Selon Maître Taleb Kiar, l'un des avocats de l'ancien président, rien n'empêche juridiquement Mohamed Ould Abdelaziz de se présenter aux élections tant que la cour d'appel n'a pas rendu sa décision.
Dès l'instant où on a fait appel, il doit bénéficier de ses droits civiques. L'appel est suspensif parce que la condamnation n'est pas suivie d'un mandat de dépôt.
Maître Le Gourmeau, avocat de la partie civile, confirme que l'ancien président jouit encore de la totalité de ses droits civiques jusqu'à la décision, mais selon lui, sa candidature n'est pas recevable. Il met en avant l'article 28 de la Constitution mauritanienne qui prévoit que le président de la République est rééligible une seule fois.
Le texte constitutionnel mauritanien est très clair. Il a fait ses deux mandats. Ce n'est pas successif comme le Sénégal et la France. Ils font du cinéma.
Une interprétation que conteste l'avocat de la Défense. Pour valider sa candidature, Mohamed Ould Abdelaziz devra recueillir les signatures d'au moins 100 conseillers municipaux. Le Conseil constitutionnel officialisera fin mai la liste des candidats autorisés à se présenter. Léa Breuil-Noix, RFI.
Nouakchott, oui, il est 6h37, même heure à Bamako, au Mali, voisin, où deux des trois phases du dialogue intermalien sont désormais bouclées, les phases communales et régionales. Ne manque plus que la partie nationale qui doit avoir lieu entre les 6 et 10 mai prochains. Les autorités de transition présentent ce dialogue comme une alternative à l'accord de paix de 2015 que le Mali a officiellement rompu. Pourtant, l'organisation et les comptes rendus de ces rencontres semblent progressivement révéler un autre objectif jamais affiché, la prolongation de la période de transition terminée officiellement depuis le 26 mars, David Baché.
La sécurisation de la route numéro 15, la prolongation de la transition.
Ce reportage de la télévision d'État ORTM énumère les recommandations du dialogue dans la région de Bandiagara. La prolongation de la transition y figure en bonne place. De Bamako à Kidal, en passant par Gao ou Taoudeni, on suggère un allongement d'un an, 3 ans, voire 10 ans, ou l'organisation d'élections, mais seulement quand les conditions seront réunies. S'agit-il de demandes spontanées des participants? Des consignes ont-elles été données pour un plébiscite organisé de l'allongement de la période de transition, qui a officiellement pris fin le 26 mars dernier? Le colonel Assimi Goïta, président de transition, avait annoncé un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, censé permettre l'appropriation nationale du processus de paix. Pour beaucoup, et notamment pour l'ancien Premier ministre Moussa Mara, ce dialogue ne doit donc pas servir d'alibi à une nouvelle prolongation de la transition.
Si c'était le lieu d'en débattre, le président devrait le dire dans son discours et ensuite on devrait le mettre dans les objectifs généraux, dans les objectifs spécifiques. Mais ça n'apparaît nulle part. Le dialogue doit se concentrer sur son objectif. Toute autre thématique n'entraînerait que de la division. Et aujourd'hui, au Mali, on n'a pas besoin de division.
L'ultime phase nationale de ce dialogue doit s'achever le 10 mai prochain. Il appartiendra ensuite au comité de pilotage du dialogue, dont les membres ont été choisis par les autorités, de faire la synthèse des propositions qui devront être appliquées.
David Baché, des centaines de réunions publiques par jour, des caravanes et des candidats qui vont toquer aux portes. La campagne pour les élections législatives et régionales bat son plein au Togo pour les scrutins de lundi, campagne que l'on continue de suivre. Nous sommes ce matin dans la circonscription du Golfe pour voir comment les candidats vont mobiliser jusque sur les étals des marchés avec des promesses à chaque fois bien ciblées. Reportage Peter Sassou-Dogbé.
Anita Ogoube-Kouda est candidate indépendante pour la circonscription électorale du Golfe. Fille d'une commerçante, elle veut être la porte-voix des femmes au Parlement. Elle est donc venue échanger avec elle au marché d'Atikpodi, un des marchés de légumes de Lomé.
Je suis venue sensibiliser les femmes, surtout pour leur dire de ne pas se décourager par rapport à ce qui se passe dans le pays, d'aller voter. Et si jamais elles nous font confiance et que nous accédions au Parlement, à l'Assemblée, nous essaierons de faire de notre mieux.
Autre quartier, autre ambiance, à Bekota, les militants d'opposition des Forces démocratiques pour la République sont en formation. Les délégués des bureaux de vote sont appelés à la vigilance pour défendre les résultats du parti.
Espoir Koudjadi est candidat sur la liste des députés dans le Golfe.
Mais le pays est à terre sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan social. Mais le Togo est à terre. Donc pour nous, il s'agit d'une grande opportunité pour pouvoir remettre le pays sur les rails de la démocratie.
Selon la force sécurité, élections législatives régionales spécialement créées pour ces élections, 331 réunions publiques, 11 caravanes et 69 porte-à-porte ont été organisées hier. Une intervention de cette force a même permis à une réunion de se tenir dans le calme alors que des jeunes tentaient de l'empêcher. Peter Sassoudo Bellomé, RFI.
Front commun contre les infos bidons, c'est le dossier de ce journal, ou comment les journalistes et les organisations civiles centrafricaines se mobilisent contre la désinformation.
Tout le monde part d'abord du constat que depuis peu ou prou 7 ans, les fake news explose sur les réseaux sociaux centrafricains et que les internautes n'ont pas les armes pour les débusquer. Résultat, beaucoup sont prêts à prendre pour argent comptant des informations complètement fausses et à réagir et à s'indigner en conséquence. D'où ces parades que mettent en place plusieurs titres de presse avec des acteurs civils. Rolf-Steph Domialeux.
Dans une période marquée par des tensions entre le pouvoir et l'opposition, des crises socio-économiques et sécuritaires, la désinformation est devenue omniprésente en RCA. Arsène Mosseyavo est le directeur de publication du journal Les autres nouvelles de Centrafrique.
À partir des années 2017 jusqu'à nos jours, on assiste à une flambée de désinformation. Pour essayer de nuire à certains hommes politiques, il fallait raconter des histoires pour essayer de freiner leur avancée dans l'espace politique, surtout en période électorale.
Problème, le public centrafricain n'est parfois pas suffisamment averti. Les polémiques et la désinformation peuvent donc alimenter les conflits, selon Junior Bouté, secrétaire général du consortium des journalistes pour la lutte contre la désinformation.
La couche sociale est déchirée par rapport à la désinformation. Les hommes politiques manipulent la jeunesse à leur propre guise. La désinformation peut diviser la communauté.
Ces fausses informations sont massivement relayées sur les réseaux sociaux, explique Arsène Mosseyavo, et elles sont un danger pour la société centrafricaine.
Surtout avec la manipulation maintenant de l'Internet, surtout sur le réseau social Facebook. Il y a aussi des groupes qui sont créés au niveau des plateformes WhatsApp en Centrafrique où vous voyez des communicants qui sont de l'opposition ou bien du pouvoir en place qui essayent de s'en prendre entre eux pour leurs propres intérêts.
Pour lutter contre la circulation des fausses informations, plusieurs cellules de veille ont été créées ces dernières années par des journalistes, des acteurs de la société civile et des chercheurs. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Une fausse information part d'un groupe bien organisé. Lutter contre ces infox requiert les mêmes armes. C'est ce que nous dit Rokar Maleyo, coordonnateur de l'association Action, Médias et Développement.
Ces derniers temps en Centrafrique, il s'avère vraiment que le taux, le degré de la désinformation est très élevé. Ceux qui sont à l'origine de la désinformation ont beaucoup de moyens. Une désinformation, celui qui crée, il a tous les conforts nécessaires. Il a son ordinateur, il a ses connexions Internet, parce que tout se passe en ligne actuellement. Et donc, on peut lutter efficacement si l'autre côté aussi a les moyens de lutte. Je voulais parler des moyens ici, de l'argent, des moyens matériels, une bonne connexion Internet. Ça permettra maintenant de lutter efficacement. Mais maintenant, pour que tout le monde se mobilise pour lutter contre ce fléau qui gangrène notre pays, je vois les organisations professionnelles des médias en Centrafrique et les ONG qui travaillent en appui à ces médias se mobilisent actuellement, depuis le début de la crise jusqu'à maintenant, dans les travaux de sensibilisation, de lutte contre la désinformation, de lutte contre les messages de haine. Et je pense que lutter efficacement, c'est se mettre en synergie avec toutes ces organisations-là, avec les moyens conséquents. Ça permettra de réduire, j'ai dit bien, le flux de la désinformation en République centrafricaine.
Rokar Maleyo à 7h44 à Bangui.
Merci Edouard Dupénoit.